Le 18 octobre 1945, le gouvernement provisoire du général de Gaulle crée par ordonnance le Centre d'essai atomique, plus connu sous le nom de CEA, afin de rivaliser avec les autres nations possédant l'arme nucléaire.
Il s'agit de savoir si, pendant que les autres se sont faits et continuent de se faire, des armes capables de détruire l'univers et nous aussi. Et il s'agit de savoir si nous aurons ou si nous n'aurons pas, nous aussi, de quoi nous défendre.
C'est ici le germe de la puissance d'un pays, dans l'ordre industriel comme dans l'ordre militaire.
The power of the atom, greatest source of energy man has ever discovered, is now serving in many ways, from atomic submarines and ships to nuclear fuel generation of electric power.
Et d'autant mieux et d'autant plus que cette puissance nucléaire, comme on dit, est liée directement à l'énergie atomique elle-même, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain.
La France est donc le premier pays de l'Europe continentale de l'Ouest à produire de l'électricité à partir d'une centrale atomique.
La France a engagé un programme électronucléaire qui est un programme électronucléaire dont personne ne peut faire oublier ici qu'il est approuvé à la fois par le Parlement et par l'immense majorité de la population française.
En 1973, la production d'énergie nucléaire représentait 8% de l'électricité en France. 24% dans les années 80 pour atteindre son maximum, 77% dans les années 2000.
Et notamment par les travailleurs et par les jeunes qui savent parfaitement qu'il n'y aura pas d'emploi en France en l'an 2000 si nous ne disposons pas de sources d'énergie indépendantes.
Et c'est à la lumière des plus récents travaux atomiques qu'ont été conçus les produits Vichy, source de beauté.
En 1970, 5 réacteurs entrent en service. Après la crise, il y en aura 43, 6 de plus dans les années 90 et encore 4 de plus dans les années 2000.
Mais à partir des années 70, le nucléaire devint la bête noire d'un nouveau courant de la société, les écologistes.
Ce bateau naviguait dans le golfe de Gascogne afin de rejeter à la mer des fûts emplis de déchets radioactifs.
Militaires ou civils, les usines nucléaires ont tout un point commun. Elles produisent obligatoirement des déchets radioactifs.
Les 2000 tonnes de déchets ainsi engloutis dans l'océan devaient tomber dans une fosse marine de 4500 mètres de profondeur. Aussi, l'implosion de ces fûts était à redouter.
Depuis qu'elle existe, l'industrie nucléaire donne le sentiment de nager en eau trouble.
Ça pollue la mer, ça arrive dans la chaîne alimentaire et ça risque de finir dans votre assiette.
En 20 ans, 65 000 tonnes de déchets radioactifs auraient été ainsi jetées en mer. Cela en toute impunité.
Jeter les déchets nucléaires dans les océans. Et après ?
On redoute surtout une libération lente de la radioactivité, ce qu'on a appelé le Tchernobyl au ralenti.
Des déchets nucléaires qui ne cessent d'augmenter. En 1982, il y avait 375 tonnes de combustible irradié, 1120 tonnes en 1990, pour atteindre en 2015 1150 tonnes.
On est parti sur cette technologie en faisant un pari, c'est celui de savoir traiter les déchets. Et le pari n'est pas gagné 40 ans plus tard.
La contestation du nucléaire en France n'a plus la vigueur qu'elle a eue dans les années 70.
Du coup, on est avec toi, John, de Bure, au téléphone. Salut, John.
Salut.
Tu fais partie des opposants au projet CIGEO à Bure, donc ce projet d'enfouissement des déchets qui est porté par l'ANDRA. Alors l'ANDRA, c'est quoi ? C'est l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, qui a été créée il y a à peu près 40 ans, en 79, hein, et qui du coup a pour but de gérer les déchets radioactifs, puisque déjà dans les années 70, on s'est dit « Ouh là là, mais on fait plein de centrales, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets ?» Donc on a créé une agence, alors... Très vite, en 83, l'ANDRA sélectionne des sites géologiques pour enfouir des déchets sous la terre. Là, il y a plein de gens qui s'opposent et du coup, l'ANDRA abandonne ses recherches. Et puis, en 92, un appel à candidature qui est lancé pour le choix de département, pour accueillir des laboratoires souterrains. Et en 98, c'est le gouvernement Jospin qui opte pour la réalisation d'un laboratoire unique à Bure. Et voilà que l'Andra déboule à Bure dans la Meuse, donc en 99, pour fabriquer son laboratoire souterrain. Pour soi-disant étudier la géologie des lieux, pas du tout pour stocker des déchets, on n'en est pas là encore. Hein.
Non, pas à ce moment-là. Ouais.
Voilà.
Il faut juste préciser qu'entre-temps, il y a 3 sites qui ont été abandonnés suite à une mobilisation particulièrement importante des populations locales qui ont abouti à faire échouer l'implantation des 3 autres sites laboratoires qui étaient prévus.
D'accord. Et c'était des sites dans la même région, du côté de la Meuse, du coup?
Non, pas du tout. C'était à différents endroits, notamment il y a eu une lutte particulièrement acharnée dans les Deux-Sèvres, à Neuvy-Bois, qui avait abouti à l'abandon du projet là-bas. Okay. Et le seul site qui a pu s'implanter, malgré des manifestations très importantes à Bar-le-Duc, également dans la Meuse, qui avait réuni notamment 10 000 personnes à Bar-le-Duc, ce qui est énorme pour la Meuse, le projet a quand même pu se maintenir parce que la spécificité de la Meuse, c'est une population très faible, donc c'est assez difficile de bâtir un rapport de force sur place, mais il a existé.
Mais alors, juste pour préciser, du coup, ces mobilisations, c'était déjà contre l'implantation simplement du laboratoire, c'est-à-dire qu'il y avait déjà l'idée que ce laboratoire était un cheval de Troie qui annonçait l'enfouissement des déchets.
Les gens n'étaient pas dupes à l'époque déjà du fait que c'est un cheval de Troie, oui. C'était assez évident pour eux qu'allait suivre un projet d'enfouissement. Mais la coordination nationale contre les déchets radioactifs qui s'est constituée à l'époque a déjà soulevé ça dès la décision de créer des laboratoires.
Donc dès la fin des années 90, là, déjà on est il y a 20 ans.
Et donc c'est cette coordination aussi qui a permis des mobilisations aussi fortes, puisqu'elle a alerté dans les différents endroits et il y avait une véritable coordination entre les différents lieux d'implantation des laboratoires.
Donc là tu dis que du coup en 98-99 il y a déjà eu pas mal d'opposition, tu parlais d'une grosse manif à Bar-le-Duc. Malgré tout ça, le laboratoire s'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'opposition par la suite dans les années 2000? Il y a eu un affaiblissement un peu?
On avait eu les agriculteurs qui s'étaient vraiment en 2000 aussi mobilisés. Il y avait beaucoup une mobilisation portée par les Allemands, entre autres, puisque le réseau anti-nucléaire allemand est assez fort, comme on le sait. Et différents campements ont été organisés autour de Bure, autour du laboratoire dans les années 2000, début des années 2000, donc en 2000-2001. Il y avait un campement, notamment en 2000, qui avait réuni plus d'un millier de personnes qui avaient campé durant plus d'une semaine autour du laboratoire. Et qui était beaucoup porté par les Allemands à l'époque.
D'accord.
Parce que Bure était très peu connu et jusqu'à très récemment, Bure, ça n'évoquait rien à personne ailleurs qu'en Lorraine et encore, même à Nancy. L'idée reçue, c'est qu'il y a des déchets déjà radioactifs dans les souterrains maintenant. Donc à l'époque, c'était assez difficile de mobiliser. Et donc c'était principalement des gens des réseaux antinucléaires qui venaient se mobiliser. Donc dans les années 2000, on a eu une mobilisation qui s'est transformée aussi un tout petit peu avec l'arrivée de jeunes qui étaient plus en dehors des associations antinucléaires traditionnelles, qui avaient un peu remobilisé autour des trains Castor au milieu des années 2000, donc 2005. C'est là aussi où on apprend que le projet va être un projet d'enfouissement vers 2004, 2005, 2006. Donc il y a une première enquête publique en 2004. Et en 2006, on a des mobilisations à ce moment-là assez importantes, mais c'est aussi la date où Sébastien Briat meurt lors d'un blocage de convoi nucléaire. Donc ça crée une vraie onde de choc au niveau des militants qui s'étaient un peu réactivés dans l'Est.
C'est ça, il meurt happé par un train de transport de déchets nucléaires, quoi.
Tout à fait.
Ok, et du coup, voilà, là, il y a un gros coup d'arrêt un peu à la mobilisation, le moral à zéro pour tout le monde.
Là, ça prend un peu la forme de travail de fond avec des festivals qui sont quand même organisés jusqu'en 2010 à Bonnet. Donc le petit festival contre la grande poubelle qui est un peu une édition préalable au burlesque qu'on a fait cette année, le festival des burlesques. C'est un peu dans la même idée de mobiliser les populations locales, de toucher plus les gens du coin qu'un public anti-nucléaire déjà convaincu. Enfin de vraiment essaimer un peu autour. Et le maire de Bonnet perd la mairie, donc est renversé au municipal. suite à des pressions exercées sur les conseillers municipaux et toute son équipe, plus personne de son équipe n'est réélu ensuite. Donc ça fait partie des pressions de fond dont on peut reparler dans un second temps. Mais ça change aussi beaucoup de choses puisque Bonnet n'est plus un point possible d'appui pour ce festival. Et pendant deux ans, 2010-2013, il y a vraiment un flottement. La lutte paraît un peu perdue, ouais. En tout cas pour les gens du coin. Eux, ils ont renoncé. Beaucoup des terrains ont été achetés dans cette période-là, entre 2005 et 2015. Énormément de terrains ont été achetés par l'Andra, donc 3000 hectares ont été acquis de terres. Des pressions très importantes exercées sur les gens pour les amener à vendre. Donc il y a vraiment une renonciation qui est ancrée en 2013. Il y a une renonciation qui est ancrée dans la résistance au projet. Pourtant, ouais. On arrive quand même à avoir en 2013 une mobilisation importante qui est celle contre le débat public. Donc après la consultation publique de 2004, il y a le débat public de 2013. Et à ce moment-là, il y a un boycott massif du débat public. Donc un empêchement du débat public, les opposants sont présents à toutes les réunions et empêchent la tenue des réunions.
Débat public qui se conclut par l'avis du président de la Commission nationale du débat qui dit que ce projet d'enfouissement n'est pas le seul possible et qu'il faudrait peut-être en chercher d'autres, c'est ça ? Si je ne me trompe pas.
Mais par ailleurs, le débat est quand même déplacé sur Internet. C'est-à-dire qu'on se sert quand même, on dit le débat a été fait. Ouais. Donc il y a quand même un avis qui ressort positif en faveur du projet au niveau de Bure. Et le débat public est déplacé sur Internet et cette consultation un peu bidon sert d'argument pour entériner davantage le projet d'enfouissement CIGEO.
Alors juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, là, pendant toutes ces années, les années 2000 et puis début 2010, en parallèle de ces mobilisations qui prennent et qui prennent pas, qui remontent et qui redescendent, l'Andra fait son travail d'implantation dans le territoire et commence un peu à acheter les terres, tu l'as dit, mais aussi, à corrompre un peu tout le monde, à distribuer de l'argent à tout va, quoi.
Voilà, donc un fonds est mis en place, le groupement d'intérêt public de la Meuse et celui de la Haute-Marne sont mis en place pour financer, arroser plus exactement la Meuse et la Haute-Marne, puisque le laboratoire est implanté à la jonction de la Meuse et de la Haute-Marne, pour abonder un certain nombre de projets économiques de la région, ce qui fait que l'Andra est présenté déjà par ce biais comme une manne économique par avance pour la région.
Ouais, déjà en 99, à la construction du laboratoire, l'Andra promet 60 millions de francs en cas de construction du coût de ce laboratoire et c'est consacre ça. Déjà une enveloppe budgétaire de 5 millions de francs par an aux communes et 10 millions en 97. Donc là, on est vraiment face à des sommes d'argent folles pour des toutes petites communes en plus, quoi.
Voilà, on est à 30 millions pour la Meuse et la Haute-Marne, donc 40 et 30 parce que ça a glissé sur 40 récemment.
En euros.
40 pour la Meuse, 30 pour la Haute-Marne.
Ouais, d'accord.
Donc on a un soutien financier qui permet à l'Andra de se présenter comme une manne économique à venir pour la région. Donc ça, c'est le groupement d'intérêt public qui, lui, va aboutir à la construction de salles des fêtes, rénovation des routes, l'éclairage, enfin... Tout y passe, en fait. Tous les villages, on a des lampadaires rouges, des abribus rouges, tout est mis à neuf. Et le message vraiment envoyé aux populations locales, c'est « Regardez, nous sommes l'avenir de ce territoire. »
C'est ça. Là, c'est une des armes que développe l'Andra et qu'elle appelle elle-même l'acceptabilité sociale.
C'est ça.
Du coup, comment on se fait accepter dans un territoire ? En distribuant des thunes, quoi.
C'est rendre acceptable l'inacceptable. Ouais. Parce que aucun territoire ne veut de déchets nucléaires, ça c'est évident. Et donc c'est un peu comme les soins palliatifs, c'est faire accepter l'inévitable ou l'inacceptable en injectant progressivement de l'argent, en invitant les élus à des parties de chasse... Parce que les bois acquis par l'Andra, en partie, ne lui servent qu'à ça. C'est des réserves de chasse importantes et assez riches qui lui servent à aussi faire miroiter la possibilité de récupérer des réserves de chasse. Ouais. Et par ailleurs, sur les terres, ils se servent de toutes les réserves foncières comme monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un terrain les intéresse, ils viennent avec un autre terrain, 2, 3, 10 kilomètres ou davantage. Ils en ont jusqu'à Verdun. pour proposer au propriétaire un terrain contre un autre. C'est lui dire, regarde, on prend ton terrain, on t'en donne un autre en échange qui fait la même surface, et on t'ajoute en plus 30% du prix qu'on te verse. Donc tu es gagnant, et de toute façon, si tu n'acceptes pas, dans quelques années, on sera pas aussi arrangeant, ça sera l'expropriation.
Ouais. Oui, donc tu l'as précisé, hein, du coup c'est pas seulement de l'argent, hein, c'est aussi des baux agricoles, des baux de chasse et puis des emplois. L'ANDRA distribue des emplois aussi.
Voilà, il y a pas mal d'emplois aussi qui sont proposés, soit en direct, ça ils sont pas tellement nombreux, les emplois directs, les emplois indirects par le BTP, mais ça c'est une période, c'est-à-dire que tant que l'ANDRA se construit, fait des travaux, et tant que le GIP abonde des travaux un peu partout, ça entretient des emplois dans le BTP. Mais évidemment, dès que ça retombera, tous ces emplois retomberont avec. C'est des emplois très ponctuels et pas du tout durables.
Alors ça, c'est les emplois directement en lien avec le projet, mais il y a aussi des emplois un peu, déportés, on va dire, notamment cette histoire d'un hôtel-restaurant, l'hôtel-restaurant du Bain d'Œil. Tu peux nous parler de ça un peu ?
Bah, l'hôtel-restaurant, il est implanté donc dans la zone laboratoire, c'est-à-dire juste en face de l'écothèque, qui est l'endroit où l'ANDRA prétend préserver un instant T l'état de l'environnement. Donc il stocke tout un tas de relevés, de prélèvements pour pouvoir prouver qu'à un instant T l'environnement était tel et que 20 ans plus tard il s'est pas beaucoup dégradé. Donc juste en face on a l'hôtel-restaurant, et l'hôtel-restaurant c'est le premier bâtiment commercial privé qui est soutenu par l'ANDRA et soutenu par la politique du GIP qui va s'implanter dans cette zone-là, parce que la zone est amenée à s'étendre, c'est ce qu'ils appellent la zone à urbaniser. Donc c'est déjà sympa, zone à urbaniser comme terme, mais ça devrait accueillir également une station de service, un supermarché, une boulangerie. La boulangerie est en cours de construction déjà. Il y a aussi une forme vraiment d'occupation des esprits, c'est-à-dire de dire votre essence, votre supermarché, il n'y a pas de supermarché à moins de 15 bornes de Bure. Donc mettre un supermarché à cet endroit-là, évidemment, c'est créer l'offre pour amener les gens à aller faire toutes leurs courses à l'ANDRA, en fait.
C'est une stratégie de se rendre indispensable partout, quoi.
Voilà, c'est ça. L'acceptabilité sociale, c'est ça, c'est se rendre indispensable.
À quelques centaines de mètres du laboratoire, sur la commune de Chaudron en Haute-Marne, l'ANDRA dispose également d'un espace technologique dont l'objectif est de faire découvrir au grand public le projet de centre de stockage profond, CIGEO. Colis de déchets, conteneurs et alvéoles de stockage, manutention des colis, sont autant de solutions techniques développées par l'ANDRA pour mener à bien sa mission de gestion des déchets. Les différents prototypes et démonstrateurs sont exposés ici en grandeur nature.
Du coup, tu disais qu'à partir de 2010-2013, dans ces années-là, la mobilisation s'est un peu retombée. Et puis là, depuis un an et demi, ça revient. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait ?
Oui, il y a un peu un tournant qui s'est opéré. Alors, ça, c'est en plusieurs phases. Donc, après le débat public, en 2014, le débat public avait un peu relancé une dynamique et un peu une motivation des opposants au niveau de Bure. Et du coup, il y a eu, en 2014, il y a une opération qui est lancée sur un an pour remobiliser les gens autour de Bure et faire connaître Bure. C'est Bure 365. Donc, c'est une année d'appel à action décentralisée en soutien à Bure. Une première tentative des gens mobilisés localement autour d'une assemblée anti-nucléaire Grand Est qui s'est reconstituée peu avant pour relancer une dynamique anti-nucléaire dans l'Est. Donc de cette assemblée part l'initiative d'une année d'action décentralisée. Bon, ça ne marche pas vraiment parce que Bure est peu connu et peu soutenu. Donc il y a peu d'actions qui sont menées, essentiellement menées par des gens qui sont déjà proches des réseaux mobilisés sur place. Ouais. Donc après, Par contre, ça attire un peu l'attention d'un certain nombre de militants qui sont engagés sur d'autres endroits, notamment Notre-Dame-des-Landes ou sur les luttes anti-THT dans l'ouest de la France. Et à Paris, sur les projets d'aménagement parisiens, enfin, on constitue un groupe de plusieurs dizaines de personnes qui se réunissaient tous les mois, dont je fais partie à l'époque, qui va s'intituler à un moment donné VMC. Et pendant un an, on préparait de 2014 à 2015 le camp qui a eu lieu en été 2015 à Bure.
Ouais.
Donc, c'est ce camp-là qui a fait venir 1500 personnes pendant une semaine, en cumulé à peu près, et qui a relancé une visibilité de Bure, puisque ça touchait à pas mal de réseaux déjà mobilisés, notamment Notre-Dame-des-Landes, Roibon, Le Morvan, à Paris et à différents endroits. Et ça a redonné à Sivens aussi, ça a fait venir des gens d'un peu tous ces horizons, et avec une semaine de débats très intense sur l'état des lieux des mobilisations, il y avait énormément de réseaux qui se retrouvaient, des discussions qui pouvaient toucher la question des migrations, des luttes migratoires comme à Calais, ou aussi bien que les luttes antinucléaires, ou même le mouvement social à Paris et compagnie. Donc ça a été un temps assez riche, et ouais, qui lui a donné une vie, enfin a permis de faire connaître vraiment Bure à un grand nombre de gens. Et à partir de là, il a été aussi beaucoup plus facile de mobiliser dans l'année qui a suivi du monde en soutien à Bure.
D'accord.
C'est juste avant la COP 21. C'était l'été avant la COP 21. Et il y avait eu un temps, notamment, de discussion sur quelle mobilisation pour la COP 21. Il y avait des réseaux internationaux qui étaient venus aussi parler de la COP 21. Enfin, voilà. Donc ça a donné vraiment pas mal de visibilité à Bure et a permis de faire savoir que là, il y avait un projet particulièrement important à dimension plus que nationale, puisque a priori, des déchets pourraient aussi venir de l'étranger à terme, même si pour le moment, c'est dit que non, mais... Voilà. Et puis surtout, à partir du moment où un projet aboutit à s'implanter et qu'il est le premier, il y a de fortes chances qu'il attire aussi les convoitises des pays voisins pour enfouir leurs propres déchets. Donc avant qu'il y ait des accords pour enfouir également les déchets des voisins, il faut qu'un pas. Donc nous, on est assez... on se fait pas trop d'illusions là-dessus.
Ouais. Et du coup, là, petit à petit, on arrive à l'été 2016 et à la mobilisation, la réoccupation du Bois-le-Jus, enfin l'occupation du Bois-le-Jus plus précisément, et puis la chute, ironiquement appelée, la chute du Burne de Merlin.
Oui, voilà, c'est ça. Bah, après le camp VMC, du coup, il y a une dizaine de personnes d'entre nous qui s'installent là-bas avec l'idée de s'implanter progressivement, parce que pour nous, dès cet instant-là, il nous a paru assez indispensable de vivre là-bas pour lutter là-bas, comme à tous les endroits. Enfin, c'est vraiment une réflexion qu'on a eue à ce moment-là, qu'il fallait vraiment être sur place pour faire partie du territoire pour lequel on prétend lutter, en fait.
Ouais.
Et c'était dans cet esprit-là qu'on a commencé à faire de l'agriculture, qu'on a occupé les champs de l'Andra. C'était aussi une façon de... Comme on a eu un gros travail sur le foncier à ce moment-là, avec un inventaire complet du foncier que l'Andra a récupéré, on a décidé de visibiliser ce travail-là par des actions sur l'agriculture. Donc notamment, on a occupé 2 hectares de champs de l'Andra, 3 hectares au total, on a perdu 1 hectare entre-temps, mais dans lequel on a planté d'abord des patates, puis des céréales cette année au printemps. Donc, okay. Pour nous, c'est une façon de dire l'autonomie, c'est un message à plein de niveaux. C'est dire la disparition des terres agricoles est préoccupante, l'Andra participe à cette disparition des terres agricoles actuelles en France. L'autonomie alimentaire est une question très importante, donc la qualité de l'alimentation, donc ça aussi. Et il y a d'autres moyens de faire fonctionner une économie locale que de lui implanter un projet. La Meuse n'est pas un territoire hypothéqué. La Meuse est un territoire qui est aussi capable de produire des choses et qui en a produit par le passé. Il est tout à fait possible de reconstruire ça par la solidarité, par un travail mutualisé, en fait, que ce soit par l'apparition de coopératives ou de réseaux mutuels. Donc c'est un peu ce travail de fond qu'on mène en parallèle de la lutte contre le projet CIGEO. Et donc à la fin du printemps, l'Andra est arrivé pour faire des travaux dans le Bois-le-Jus. Et à ce moment-là, déjà en janvier, il y avait eu des fouilles préventives des archéologues. On avait tenté de bloquer ces fouilles préventives, mais on était trop peu à l'époque. Il y avait 30 personnes sur le terrain qui avaient pu être mobilisées pour... Donc ça suffisait pas pour bloquer les fouilles. Par contre, en juin, Il y a 250 personnes qui sont venues pour envahir la forêt et enlever toutes les installations que l'Andra avait déjà mis, donc les grilles, les poteaux, les grilles, et tout, ils étaient en train de clôturer déjà le bois à l'époque. Et donc après ça, durant l'été, il y a eu la mobilisation du bois Le Jus qui a fait venir plusieurs milliers de personnes tout au long de l'été. Donc ça a été vraiment le point de démarrage de l'intensité et de la visibilité de Bure qu'on connaît actuellement. Ça a donné une visibilité nationale à Bure, puisque en juillet, durant un mois, le bois a été occupé entre juin et juillet par plusieurs dizaines de personnes. Donc ça a commencé un tout petit peu à visibiliser un peu la lutte à Bure. Une lutte d'occupation, ça a toujours beaucoup plus de visibilité qu'une lutte de fond où on ne voit pas forcément ce qui se fait au jour le jour. Et en juillet, le 7 juillet, expulsion du bois Le Jus par une centaine de gendarmes au petit matin.
Ça, c'était en 2016.
Voilà, en 2016, l'année dernière. Et une semaine plus tard, appel à réoccupation, le 15 juillet, le bois est réoccupé en fait. D'accord. Par une manifestation de 400 personnes, les gens rentrent dans le bois. Il n'est pas totalement réoccupé puisque les gendarmes sont juste repoussés vers le sud du bois, là où un mur commence à être construit. Okay. Donc il y avait déjà une centaine de mètres construits de murs, un mur de 2 mètres de haut en béton, qui devait enclore entièrement le bois Le Jus.
Oui, sans même attendre d'ailleurs de permis de construire, hein. Faut le préciser. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas eu de permis. Nous, on a posé toutes les plaintes juridiques contre le défrichement, contre l'échange du bois, contre également la distraction du régime forestier, c'est-à-dire normalement le bois appartient à son régime forestier. Donc là, il y a eu un truc un peu rapide où on retire le bois Le Jus du régime forestier pour pouvoir faire des aménagements. Enfin bon, il y a eu beaucoup de rapidité, beaucoup de procédures très rapides de l'Andra pour surtout ne pas devoir passer par les étapes nécessaires.
Oui, la politique et, du fait accompli. Hein.
Et voilà, c'est ça, c'est ce qui a été fait à Sivin. On rase les arbres, après il n'y a plus rien à défendre. Donc du coup, les procédures juridiques, on n'a plus le courage de les porter parce qu'il n'y a plus rien à sauver. Mais là, l'occupation a permis de laisser le temps aux procédures juridiques de se faire. Notamment, le 1er août, on a eu un avis, c'est la première décision juridique en notre faveur en 20 ans. Donc, la condamnation de l'Andra pour défrichement illégal, à des astreintes très élevées si au bout de 6 mois, elle n'avait pas remis en état le bois.
Le 1er août de cette année, de 2017, c'est ça ?
1er août de l'année dernière.
Ah, de l'année dernière, ok.
Et ce qui a fait un peu la boule de neige qui a suivi, c'est-à-dire que, au vu de cette situation, on est allé voir la préfecture. On a dit, on ne comprend pas pourquoi une cinquantaine de gendarmes mobiles défendent ce bois jour et nuit, en défendent l'accès, et que des travaux continuent dedans, alors que, une condamnation est intervenue au tribunal pour défrichement illégal. Donc vous défendez un chantier illégal avec le recours aux forces de l'ordre. 3 jours après notre visite, c'est-à-dire peu avant le 15 août de l'année dernière, l'Andra et la gendarmerie retirent tous les effectifs vigiles et gendarmes mobiles du bois. Ce qui nous permet, nous, avec la manifestation qu'on avait appelée le 15 août à réoccupation du bois, de détruire le mur qui a été construit sur 1,2 km. Donc sur les 3 prévus, on abat 1,2 km de mur avec les 400 personnes qui viennent ce jour-là. Donc ça, c'est une action symbolique très très forte qui a une portée cette fois-ci nationale, puisque la presse nationale, notamment Libé, fait un dossier de 4 pages. Enfin, ça donne vraiment une dimension nationale à la question de l'emplacement.
Twist, 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 twist nous avons décidé de rentrer. Regarde mon amour, je brille dans le noir. Regarde mon amour, il n'y a plus d'espoir. Regarde mon amour, un bouquet de cheveux. Regarde mon amour, je saigne des deux yeux. Ouais, tu sais mon amour, je ne veux pas te voir pleurer. Jusqu'à la mort, baby, je veux te voir twister. Sèche tes larmes et ramasse tes cils. Je t'en ai twisté à Tchernobyl. Alors nous avons pris l'avion.
Fin 2010, on comptabilisait environ 1 320 000 mètres cubes de déchets radioactifs déjà produits en France. Ils sont majoritairement issus de l'industrie électronucléaire pour près de 59% d'entre eux. Les déchets radioactifs proviennent aussi à 26% de la recherche, à 3% de l'industrie non électronucléaire, à 11% de la défense, à 1% du secteur médical.
En fait, les déchets sont triés en fonction de leur durée de vie et de leur niveau d'activité. L'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde, elle se mesure en becquerel. Alors il existe plusieurs catégories de déchets. D'abord, les déchets à faible et moyenne activité et à vie courte, ceux qui dans 300 ans ne seront quasiment plus radioactifs. D'autres déchets présentent un très faible niveau d'activité, moins de 100 becquerel par gramme et ont une durée de vie très courte, quelques dizaines d'années. Ces déchets proviennent du démantèlement des centrales, il s'agit du béton, des gravats, des terres. D'autres déchets, en revanche, ont un niveau d'activité plus important entre 1 million et 1 milliard de becquerel par gramme et une durée de vie supérieure à 300 ans.
Des déchets qui resteront toxiques pendant plus de 100 000 ans.
Ah, c'est vrai, Jamy, qu'on se demande bien ce qu'on va en faire de ces déchets à vie longue.
Si un être vivant se retrouvait à côté de ces déchets de haute activité, au bout de quelques minutes, il recevrait une dose mortelle.
Alors, une des solutions envisagées, c'est de les enfouir, enfin plus exactement, de les stocker dans des galeries souterraines creusées dans des couches géologiques profondes.
C'est une roche qui est à la fois imperméable, c'est elle qui doit confiner la radioactivité, et c'est une roche qui est également assez massive, solide, dans laquelle on peut creuser des galeries de stockage.
Et voilà à quoi pourrait bien ressembler la zone de stockage. Les conteneurs de déchets de moyenne activité et à vie longue seront empilés dans des alvéoles en béton.
Tout serait robotisé à cause des radiations.
Les déchets vitrifiés très radioactifs seront protégés par une deuxième enveloppe en acier.
Des cylindres de métal de 400 kg remplis d'une masse de verre fondu qui emprisonne les éléments radioactifs.
Puis glissés dans de longs tunnels. Pour être stockés, leur température ne devra pas dépasser les 90 degrés.
Les déchets les plus dangereux, comme ces cylindres, seraient poussés dans leurs alvéoles, directement dans la roche.
Alors même si cette pierre est extrêmement sèche, elle contient un peu d'eau et cette eau, au fil du temps, va être en contact avec nos colis de déchets vitrifiés qui, eux, forcément, vont finir par se corroder.
Ça veut dire, on considère que nos petites capsules avec les déchets dedans, elles vont se détériorer au fil du temps naturellement. Bon, il restera le matériel nucléaire au contact avec l'argile, et c'est l'argile qui se chargera de faire l'enveloppe.
Et alors, s'il y a de la corrosion, Jacques, les produits radioactifs vont finir par se diffuser dans le sol ?
Tout à fait, c'est pour ça qu'on réalise ici des expérimentations de diffusion pour savoir comment les produits radioactifs migrent dans la roche.
Au bout de 300 ans, on ne pourra plus retirer les colis car leurs alvéoles seront trop dégradées. Il faudra les boucher définitivement.
Durée du remplissage de ce site 100 ans et après, on ferme tout et on oublie.
Après 140 ans de fonctionnement, le site serait définitivement scellé.
Coût de l'opération, 15 à 36 milliards d'euros. La fourchette est assez large pour 80 000 mètres cubes de déchets radioactifs dont la durée de vie dépasse les 300 000 années.
Alors du coup, si on parle de tout ça, c'est pour en venir à cet été, donc de l'année 2017. Cet été qui a été chargé en actions, en émotions. Et cet été qui était placé sous le sceau de l'anniversaire justement de cet été 2016 qui a vu toutes ces avancées sur le front de la lutte.
Oui, le premier anniversaire de l'occupation aussi du coup.
Premier anniversaire de l'occupation. Oui. Alors ça a commencé par la semaine du 19 au 26 juin, un goûter interminable d'anniversaire. Alors là, il s'est passé beaucoup de choses, notamment des balades dans le bois.
C'était aussi, cette semaine, c'était aussi un moment, j'imagine, pour renforcer l'occupation, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a évidemment des victoires hein, sur le front juridique, mais par exemple, le même tribunal, mais il y a aussi des défaites, et notamment le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, donc le même hein, qui avait déclaré illégal les travaux de défrichement du bois, hein, du Bois-le-Juc, eh bien ce même tribunal, au printemps dernier, a déclaré le Bois-le-Juc expulsable, donc vous êtes expulsable à tout moment. Donc on imagine qu'en juin, l'idée c'était aussi de voir comment conserver c'est cette ça. Occupation, comment la renforcer.
Pour nous, c'est vraiment tout l'été, pour nous, c'était l'occasion de renforcer l'occupation. C'est-à-dire, on a besoin de gens dans le bois. Il y a une réelle vie qui s'est installée là, sur place, sur le territoire, et qui a besoin de votre appui pour pouvoir avoir des perspectives dans les mois à venir. Donc c'était pour nous vraiment ça l'objectif de la manif du 15 août et celle de cette semaine d'action, c'était renforcer le bois, puisque là actuellement sur le terrain juridique on a pris une sacrée longueur d'avance avec le retard du projet d'un an, l'autorisation de création de CIGEO est repoussée d'un an, c'est le directeur qui l'a annoncé en juillet, et surtout les avis de l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire, et de l'IRSN, l'Institut de recherche de sûreté nucléaire, qui ont mis en cause la sûreté, la sécurité du projet. Donc pour nous, c'est vraiment une confirmation d'arguments qu'on met en avant depuis 15 ans. Et l'autorité environnementale, enfin, qui a annulé son avis, qu'elle a donné pour la seconde fois, parce qu'elle avait déjà annulé son avis en février, puis elle l'avait remis, et là, elle a de nouveau annulé son avis en obligeant l'ANDRA à faire une étude d'impact environnemental. Donc pour nous, c'est vraiment des victoires très importantes sur le plan juridique et politique.
Et sur le plan social aussi, j'imagine, parce que ces balbutiements un peu de l'ANDRA montrent, tu le disais tout à l'heure, que d'un coup l'ANDRA n'est plus aussi toute puissante qu'elle le paraissait, et que du coup là, il y a des élus qui petit à petit se positionnent, et j'imagine aussi les habitants du coin qui commencent un peu à sortir de leur peur, un peu de cette grosse machine qu'ils ont en face d'eux.
C'est totalement ça. Hein. Depuis quelques mois, nous, on était habitués à une population qui vit dans une espèce d'omerta qui est assez impressionnante, hein, parce que c'est des gens qui ne nous parlent jamais, qui parlent vraiment de l'ANDRA quand on les y amène et quand on les connaît depuis un moment. Et là, les langues se sont déliées et beaucoup de choses sont tombées, en fait. On apprend beaucoup de choses sur les méthodes de l'ANDRA, des méthodes de pression de l'ANDRA, c'est son acquisition de terres particulièrement agressive. Il y a beaucoup de choses qui tombent depuis quelques mois, et surtout les maires. Hein. Les maires commencent à se positionner contre l'ANDRA, ce qui est très intéressant parce que c'est inédit. Les maires s'étaient pas rebiffés contre l'ANDRA publiquement depuis 15 ans. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir ça.
C'est ça. Voilà. Du coup, c'est aussi ce qui marque que cette lutte n'est pas une lutte isolée de quelques illuminés voilà, au fond d'une vallée, et que là, il y a clairement des liens qui se font avec les gens qui vivent là depuis des années, depuis bien avant que ce projet n'existe.
Là, nous, on a acheté des maisons, donc on vit dans les villages, ouais. Et on commence à participer à la vie des villages, mine de rien, en quelques mois, on est devenu meusien, en fait.
Ouais.
Et ça joue beaucoup aussi pour les gens de ce qu'on n'ait pas ce spectre étranger que Longuet et Namy agitent à longueur de temps. Donc les sénateurs et le député de la Meuse n'arrêtent pas d'agiter des épouvantails comme les affreuses hordes de zadistes étrangers venus d'ailleurs. On s'est rendu compte que même une bonne partie d'entre nous était originaire soit du coin, soit en tout cas de l'Est, hein, et à 2 heures ou 3 heures de Bure. Donc ouais. on est d'autant plus attaché à la lutte sur place.
Ouais, je dis ça parce que bon, on va continuer à parler un peu de tout ce qui s'est passé cet été, et notamment d'une pression policière de plus en plus forte qui a culminé le 15 août dernier avec une manif qui a été violemment réprimée par la police. et où là le discours en face de la préfecture est de dire bah il y a les bons et il y a les mauvais, une stratégie de division très classique. Et là, pour le coup, il y a des réactions dans les 3-4 jours qui suivent d'un peu tout le monde, des militants sur place à Guéry, comme des élus, comme des associations de lutte plus anciennes. Il y a clairement une volonté de ne pas se laisser disperser, quoi.
Ah non, nous, on a vraiment tissé des liens profonds entre nous depuis 3 ans. Et on a toujours avancé de concert sur chaque journée de mobilisation. Donc la division, quand on a vu la préfecture jouer cette carte-là, on savait que ça allait être difficile pour eux que cet argument ressorte. Bon, après, c'est toujours un coup de poker de la part de la préfecture. Mais oui, elle joue la dissociation, la division, avec des pressions très importantes qui sont exercées notamment sur la population locale, avec une surprésence policière depuis un mois et demi. On a des gendarmes mobiles qui passent toutes les 20 minutes dans tous les villages à 15 km à la ronde autour de Bure. Mais vraiment, devant nos maisons, toutes les 20 minutes, ils ralentissent et ils regardent dans les fenêtres pour voir ce qu'on y fait. Donc ça joue beaucoup sur les nerfs des gens du coin qui sont contrôlés aussi à longueur de journée. Parce que ça ne s'exerce pas que sur nous, c'est vraiment plus particulièrement, ils appuient sur les gens qui nous soutiennent. Donc dès que quelqu'un va nous voir au bois, il est contrôlé derrière.
Voilà. Tu parlais du nouveau souffle de la lutte là, clairement hein, depuis quelques mois, quelques années. Ça a amené aussi une nouvelle stratégie des autorités, notamment des forces de l'ordre. C'est-à-dire que pendant un moment, il valait mieux pas visibiliser la contestation, ce qui permettait évidemment de pas visibiliser trop le projet CIGEO. Hein. Là, maintenant que la lutte devient réelle et concrète sur le terrain, pour le coup, les autorités ont changé leur fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, et ont décidé là pour le coup d'être, tu l'as dit, d'être très présente et d'exercer une pression absolument constante et très forte sur les populations, sur tout le monde. Ça, c'est une stratégie assez nouvelle, ça fait quelques mois seulement.
Oui, ça fait quelques mois, on peut même la dater il y a 2 mois, hein, il y a 2-3 mois. Avant, on avait quelque chose, par exemple le 18 février, on avait encore des traces de ce truc-là parce que les gendarmes étaient en retrait. Et là, on a une claire escalade depuis 3 mois qui est très visible. 2 mois, 3 mois. On a une inversion totale de stratégie avec l'arrestation d'un certain nombre de personnes qui ont été amenées au poste pour contrôle d'identité, la présence constante des gendarmes avec fouille des voitures, des réquisitions beaucoup plus agressives qu'avant. Avant, on avait le droit juste à un contrôle du chauffeur et une technique un peu sournoise de mettre des contraventions quand ils pouvaient. Mais ça, c'était plus cette intimidation-là qu'on avait, nous, des contraventions. Mais ça s'exerçait pas tellement sur les gens du coin, sauf l'été dernier où il y avait aussi une phase un peu agressive de contrôle qui s'exerçait sur tout le monde. Mais là, ça, c'est un changement du tout au tout parce que c'est fouille des véhicules. Nous, on s'est retrouvés avec les mains en l'air, plaquées contre un mur, avec fouille au corps, à palpation, dans le village où j'habite, en fait. Donc, on était 4 à se balader sur un chemin. On a eu 25 gendarmes mobiles en 5 minutes sur nous, quoi.
Ouais.
Dès qu'on sort de nos chemins, nos sentiers battus habituels, immédiatement, on se tape des gendarmes mobiles qui arrivent, les squats qui arrivent. Donc, on sait qu'il y a des opérations policières qui sont envisagées à Bure d'une ampleur plus vaste que ce que nous, on peut... Là, c'est plus un niveau politique d'action que... Mais ce qui est un peu absurde, parce que finalement, c'est donner à Bure une dimension équivalente à celle de Notre-Dame-des-Landes, alors que nous, on est 30 à habiter là-bas. À Notre-Dame-des-Landes, il y a 300 personnes. Donc c'est eux-mêmes, finalement, fabriquer l'image de ce qu'ils prétendent combattre. Donc c'est un peu l'ironie de l'histoire. Bon, même si nous, pour le moment, on subit quand même l'addition, il y a une claire escalade et la préfecture... joue la diabolisation à fond, parce que concrètement, des actions, il y en a très peu qui sont menées à Bure, très marginalement et occasionnellement, et on n'a pas tant les moyens que ça de mener des actions constantes, à part occuper un bois tout au long de la période des dernières semaines, il n'y a pas grand-chose, enfin, il ne se passe pas grand-chose. Hein.
Tu disais joue la diabolisation, mais joue aussi la répression de plus en plus violente. On en a parlé, mais il se trouve que le 15 août, il y a eu des blessés, beaucoup, dont un, Robin, qui a fait un peu le tour des plateaux télé et des radios là récemment, parce qu'il a eu le pied déchiqueté par une grenade offensive. Il s'avère que vous vous retrouvez là face à des techniques d'une ampleur assez énorme et que c'est un peu difficile de répondre à ça, quoi. Comment vous organisez face à ça, quoi ?
C'est vrai que là, c'est la première fois qu'on a un canon à eau. On a vraiment eu l'impression de retrouver des images qu'on a pu voir de Hambourg qui ont circulé pas mal en ligne, avec cette avancée implacable de troupes de police et de gendarmerie avec un camion à eau et puis des grenades assez agressives, donc les grenades assourdissantes, à effet assourdissant, les Gliev-4 qui ont été envoyées massivement durant cette manifestation. On en avait déjà eu en février, on avait déjà eu un blessé au pied, une opération au pied et à la main en février. On avait déjà dénoncé l'usage de ces grenades en février, qui avaient été utilisées directement à bout portant sur les gens. Mais là, on a eu une dimension bien supérieure. On retrouve une violence équivalente à celle qu'on a pu voir durant les mouvements sur la loi travail, en fait, ou à Notre-Dame-des-Landes il y a quelques années. Mais ouais. Ce niveau d'intensité, à Sivin, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment des niveaux d'intensité très élevés. Hein.
Mais du coup, alors comment vous vous positionnez face à ça et comment
Nous, comment on se positionne par rapport à ça? Bon, là, on fait un travail de fond déjà dans d'enquête, d'investigation, de reconstitution avec les témoignages. Donc, il y a une dénonciation avec un soutien qu'on essaie d'apporter aussi à Robin, mais aussi aux autres. Parce que le cas de Robin est publicisé parce que lui, il a choisi de parler, mais il y a d'autres gens qui ont été gravement blessés et qui ne parlent pas, en fait.
Ouais.
Qui ont aussi subi des blessures assez qui s'infectent méchamment. On a quand même plusieurs blessés. Hein. On a 5-6 personnes qui ont quand même eu des blessures préoccupantes. Donc voilà. Et donc nous là-dessus, on fait un travail de fond pour essayer de dénoncer un peu la stratégie employée ce jour-là, et après réattaquer au niveau juridique évidemment autant que possible, parce que c'est quelque chose sur lequel on a vraiment une stratégie juridique très offensive. On a posé 30 procédures en un an au pénal, au civil et à l'administratif.
Oui, on reprécise, il n'y a pas encore de déchets nucléaires à Bure. Hein.
Ça
reste
c'est
un
ça.
Projet et donc la marche arrière est encore possible et même souhaitable.
Les galeries de stockage n'existent pas non plus encore.
Ouais.
L'autorisation de création est dans 2 ans. Et en 2 ans, on a encore la possibilité de faire même échouer la création de CIGEO.
Il ne faut pas oublier qu'ils vont être radioactifs pendant des milliers, voire des millions d'années.
Mais la question de l'enfouissement pose d'abord la question du creusement dans le sous-sol. Et on sait que faire une mine, ça n'est pas si simple.
Est-ce qu'on peut absolument fermer hermétiquement ou bien est-ce qu'il pourra y avoir des infiltrations puisqu'on fait des trous ?
À l'étranger, jusqu'à présent, les tentatives d'enfouissement profond ont toutes mal tourné.
Cette couche d'argile qui était absolument imperméable, je fais dedans des trous. Alors je peux peut-être boucher, mais vous savez, dès que vous faites un trou, il y a des fuites. Enfin...
En Allemagne, à Asse, 126 000 fûts radioactifs enfouis il y a 20 ans doivent être évacués. Les galeries infiltrées par l'eau menacent de s'effondrer.
C'est assez facile, en fait, d'imaginer des circonstances, par exemple climatiques, sans aller jusqu'à la géologie, mais climatiques, qui font qu'une telle installation, à un moment donné... Ne peut plus fonctionner, enfin, a des problèmes.
Aux États-Unis, un incendie a interrompu le stockage des déchets nucléaires militaires. Il faut le décontaminer.
On a cumulé des facteurs de risque extrêmement importants avec ces combustibles, avec ces gaz explosifs, avec ces étincelles, avec de l'oxygène lié à la ventilation. Donc en fait, on a tous les éléments, tous les ingrédients pour faire un feu.
Aujourd'hui, on sait qu'on pourra avoir des incendies et des accidents, au fond. On sait qu'on pourra l'avoir. Et c'est pour cela qu'on étudie tous les dispositifs possibles pour prévenir ces accidents. Cette solution reste la plus sûre.
Des arguments qui ne font pas l'unanimité chez les scientifiques comme Bertrand Tullier ou Bernard Laponche. Après analyse des 4000 pages du dossier, il conclut que les déchets produiront d'énormes quantités d'hydrogène, un gaz explosif, que les robots se déplaceront avec des batteries électriques et qu'une partie des colis renfermera du bitume, un élément inflammable.
Si c'est irréversible et qu'on ne peut pas les atteindre, on enlève tout choix à ceux qui vont venir après, soit de changer de méthode, soit même, s'il y a des accidents souterrains, d'intervenir.
Pourquoi si vite? J'ai le sentiment que la machine est en route, qu'on ne pourra pas l'arrêter et je me pose la question aujourd'hui de savoir si on a pris suffisamment de temps pour y réfléchir.
On a l'impression que sur ces questions-là, les dés sont jetés, les choses sont faites et que tout est question d'habillage pour nous faire accepter des décisions qui sont déjà prises, grosso modo, des choix technologiques qui sont déjà faits.
Donc on se rend compte qu'à toutes les étapes de l'échelle de la production nucléaire, que ce soit en amont, que ce soit dans la production, on a vu des accidents de Tchernobyl, de Fukushima, ou en aval aujourd'hui, on a quand même un problème. Et le problème des déchets est un problème lourd qui engage vraiment, comme vous l'avez dit, des centaines de milliers d'années pour l'humanité. Donc pour moi, je trouve que cette industrie nucléaire pose un problème général. Voilà.
Après, dans les temps à venir, nous, on va. Là, on a pris une longueur d'avance sur le point de vue juridique, sur le terrain. Donc on va pas tout de suite remobiliser des grosses journées comme ça, parce que c'est aussi des journées qui sont assez lourdes à porter d'un point de vue du bilan et même moral, c'est pas évident, parce que subir autant de répression sur une journée de manifestation, c'est quand même pas évident pour les esprits. Donc on va reposer des moments plus modestes dans les prochains mois, plus concentrés sur notre activité, sur la dénonciation des fouilles préventives qui vont recouvrir le site néolithique qui a été découvert récemment. Donc ça, on va essayer de mobiliser un peu sur cette histoire de site néolithique. Ça nous paraît un enjeu majeur contre le projet CIGEO, parce qu'il a une emprise directe sur le laboratoire actuel. Il y a 35 hectares de sites néolithiques qui ont une emprise actuellement sur le laboratoire déjà existant.
Ouais, ça, c'est une découverte qui a été faite dans le cadre des fouilles archéologiques imposées
de l'an dernier, oui. Ouais.
Et que Tulandra essaye de mettre sous le manteau un peu.
Et qu'ils ont tué durant tous ces mois, dans le même temps où ils organisaient des expos sur l'archéologie, dans lequel ils montraient la méthodologie de fouilles de 99. Ils n'ont pas du tout évoqué les fouilles de 2016. Alors qu'elles étaient beaucoup plus récentes. Et il n'y a aucune mention de sites néolithiques ni rien dans toute leur communication, alors qu'ils organisaient des conférences sur l'archéologie à Joinville en juin.
Alors là, sur ce site néolithique, il y a des associations d'archéologues qui disent que c'est un des plus importants sites découverts en Europe. Donc là, on est quand même sur quelque chose de balèze. On n'est pas sur trois crânes et deux amphores, quoi. Alors, pour en revenir à cette manif du 15 août, c'était aussi l'objectif de cette manif, de se rendre sur ce site et de constater un peu ce qui s'est passé.
Voilà, tout à fait.
C'est assez marrant, parce que vous aviez quand même pensé cette manifestation justement pour éviter les affrontements, il me semble.
Ben nous, on avait fait un trajet qui allait de Bure à Sodron, donc on avait dit attention, on ne va pas aller sur le labo parce que ça va tout de suite engager une conflictualité directe. Et alors le problème, c'est que en sortant de Bure, on n'a pas pu aller vers Sodron, cette route étant bloquée. Et par contre, la route vers le labo était totalement dégagée. Donc ça interroge quand même beaucoup sur la stratégie de la préfecture, en l'occurrence. Ouais. Parce que on n'a pas cédé à cette facilité de prendre la route du labo. On est revenu sur nos pas au niveau de la salle des fêtes. On a fait un détour de 4 km pour revenir vers Sodron par un chemin à travers champs qui faisait un large contour hors de portée du labo. Donc c'est vraiment... Enfin voilà, on avait quand même l'intention de revenir sur notre point d'arrivée prévu, c'est-à-dire la sortie de Sodron en vue du site néolithique. La vérité, c'est vraiment qu'on a essayé d'emprunter cette route. Il y a eu un tir immédiatement de grenades lacrymogènes pour empêcher la sortie à cet endroit-là. Et de fait, la manifestation n'a pas engagé le conflit à cet endroit-là. Sinon, c'est Bure qui se serait transformé en bataille rangée. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ça, il faut vraiment le souligner. Hein. Ouais. La manifestation a fait demi-tour. Et il n'y a pas eu d'affrontement à cet endroit-là. Il y a eu un tir de barrage de grenades lacrymogènes directement dès que la manifestation est arrivée en vue des gendarmes.
Bon, en tout cas, on a une réaction assez unanime de toutes les personnes qui sont parties prenantes de cette opposition pour dire que tout le monde reste uni et que la stratégie de division ne fonctionne pas. Il y a eu des communiqués qui sont sortis un peu partout. Mmh. Et ça, c'est assez beau. Quand même.
Ouais, pour nous, c'était vraiment fort aussi. Parce que c'est pas gagné, hein. C'est pas évident. C'est aussi des gens qui mettent beaucoup leur peur de côté, parce que des journées de confrontation comme ça, bah, ça fait peur aussi, ça fait du mal, et ça fait douter un certain nombre de gens aussi de la pertinence de faire des journées comme ça. Mais au final, d'avoir ces communiqués, de se retrouver avec un truc un peu uni, ça renforce pour la suite, hein. C'est vrai. Pour nous, c'est très fort.
Oui, et on peut préciser, bon, évidemment, la peur, c'est le but, hein, recherché, hein, quand on utilise des grenades comme ça, dans des foules où il y a même des enfants étaient présents, faut le préciser. Évidemment qu'on essaye de créer la peur, c'est sûr. On précise que Robin, le jeune homme dont on parlait, hein, celui qui a été gravement blessé au pied, lui, il appelle plus que jamais à continuer le combat, à le prendre ou à le reprendre, dit-il. Voilà,
totalement.
Pour ceux qui n'y
totalement
étaient pas encore.
Lui, il est très, très en colère contre ce qui s'est passé. Il a pas mal communiqué dans la presse là aussi pour dénoncer, et pour lui c'est vraiment un combat qui fait que commencer, hein. On verra un peu comment ça se termine au point de vue juridique, parce que c'est aussi très lourd à porter pour sa vie personnelle, il a des enfants aussi. Enfin, voilà, c'est à lui qu'appartient la suite.
Et on finira peut-être en précisant que c'était écrit dans un des nombreux communiqués, hein, d'opposants là, au projet CIGEO, la France est le pays le plus nucléarisé au monde. Voilà, triste record.
Oui, malheureusement.
Eh bien écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci John.
Ben, merci à vous.
Et puis on vous souhaite longue vie, longue lutte, enfin non pas longue lutte, on espère que ça aboutira assez vite, mais en tout cas de la force, du courage.
On aura peut-être l'occasion de se retrouver pour un nouveau point d'étape.
Ben, on espère
dans
bien.
Quelques temps.
On espère bien. Merci à toi John, et puis à bientôt.
Merci, bonne fin de journée.
Salut.
Tu seras où dans 10 000 ans?
Bah, à mon avis, je serai pas là, hein.
Non, parce que nos déchets, ils seront encore là. Et surtout, ils seront toujours radioactifs. Tu vois?
Ah ouais.
Dis, papa, t'as collé toi les poissons?
Ah bien sûr, j'ai collé les poissons, enfin.
Et c'est comment?
Eh bien, tu vois la mer?
La mer, le grand truc tout noir devant nous qui fait l'air moumou?
Exactement, mon chéri. Eh bien, cette mer autrefois était bleue. Et dedans, il y avait tout un tas de bestioles, à peu près grandes comme ça, couvertes d'écailles, qu'on appelait les poissons.
Ah ah. Dis, papa, t'as connu, toi, les arbres?
Ah bien, connu les arbres.
Et t'es comment?
Eh bien, tu vois ce pylône?
Hein?
Eh bien, c'est à peu près grand comme ça, tout marron, avec en haut tout un tas de trucs verts, un peu comme du papier. Ah non, t'as pas connu le papier, toi. Enfin, on appelait ça les feuilles.
Ouais, bref. Dis, papa, t'as connu, toi, les animaux?
Ah, c'est là qui a bien connu les animaux, c'est ton père, mon petit. Les dindons, les outardes, les gnous, les girafes, les tempires, les ornithorynques, les phacochères.
Et les insectes?
Les insectes, les phasmes, les araignées, les libellules.
Et c'est passé où, tout ça, papa?
Eh, mon petit, c'est passé où? C'est passé que ça s'est mal passé, mon petit, que on les a bouffés. Enfin, on les a mangés.
Vous avez tout mangé?
Bah oui.
Vous avez pas essayé pour les autres?
Bah, on n'a pas pensé, mon petit. C'est-à-dire que la télé nous disait qu'il n'y en aura plus en 2048. Donc, si tu veux, comme il n'y en a plus en avoir, bah, tout le monde en voulait. Comme tout le monde en voulait, tout le monde en a eu. Et puis, comme tout le monde en a eu et que tout le monde en avait.
Il n'y en a plus.
Exactement.
Dis, papa. T'as connu, toi, quand il faisait pas 60 degrés?
Ah, bien connu. Des fois, on était là comme ça, on se baladait, on avait froid.
Froid?
Oui, non, laissons, oui.
Et les oiseaux?
Ah, les oiseaux. Tu vois le ciel?
Le ciel, le grand truc tout gris au-dessus de nous, ils sont pas bons, qu'on voit rien?
Exactement, mon petit. Eh bien, ce ciel, autrefois, était d'un bleu, tandis que le vaste rapace planait au-dessus de nous.
Non, mais attends. Là, t'es en train de me dire qu'avant, il y a des poissons qui nageaient dans une mer qui était bleue alors qu'elle est noire, qu'il y a des arbres avec des trucs verts, des tempires, des fois comme un chien qui faisait froid. Tu serais pas en train de te foutre de moi, non? Et l'eau, t'as connu l'eau?
Calme-toi, mon petit, calme-toi. J'ai connu les fleuves, les rivières, plein d'eau d'un coup.
Et vous avez tout?
Bah oui. C'est-à-dire, on pensait pas, mon petit. Enfin, on se disait, on sera plus là. Et puis, bah, depuis qu'on meurt plus, nous, on va bien nés devant nos emmerdes, tiens. Mais c'est pas de ta faute, tout ça, mon petit, hein. Faut pas être triste, hein.
Ah, je suis pas triste, hein. Je suis fâché, bouffeur d'oiseaux, assassin de poissons, tueur de merde, découpeur d'arbres, couvert d'insectes.
Que tu vas parler sur un autre temps, si je débranche ton lit, t'es central, hein.
Et les hommes, t'as connu les hommes ?
Vous venez d'entendre l'entretien réalisé avec John, opposant au projet CIGEO, projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Cet entretien a été enregistré le 22 août 2017. Il était entrecoupé d'extraits de reportages, journaux télévisés, discours, débats ou autres vidéos promotionnelles de l'ANDRA piquées sur le net. Vous avez entendu aussi Les Fatal Picard avec Atomic Twist et Zoufris Maracas avec Di Papa. Et en attendant, la lutte continue puisque dimanche 10 septembre prochain, un rassemblement symbolique est appelé devant la gendarmerie de Bar-le-Duc à 14h. Puis le 12 septembre, donc mardi, ce sera le procès de Jean-Pierre, un paysan en soutien à la lutte de Bure. Ça se passe aussi à Bar-le-Duc et là, tout le monde est appelé à venir le soutenir lors de son procès. Et puis le 23 et 24 septembre, à Bure, ce coup-ci, ce sera une AG de lutte et la pose de la première planche de la cabane des associations dans le bois Le Jus. Si vous voulez plus d'informations sur les mobilisations à Bure et dans la Meuse autour du projet CIGEO, vous pouvez vous rendre sur le site vmc.camp, camp C-A-M-P. On les encourage vivement à continuer à s'implanter dans le territoire, à développer cette lutte autour de ce projet délirant d'enfouissement de déchets nucléaires. Et puis, on vous encourage aussi à les rejoindre pour se battre, puisque, comme le disent les opposants eux-mêmes à propos de l'ANDRA, plus Bure sera leur chute.